EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Qu'est-ce que je veux pour mon enfant? C'est quoi la vision pour mon enfant? Est-ce que je veux qu'il aime Dieu ou est-ce que je veux qu'il m'aime moi? Et je pense que ça va influencer dans notre façon d'interagir avec notre enfant, parce que si on se dit en tant que parent, moi j'ai envie que mon enfant m'aime, dans le sens je veux maintenir cette relation avec lui à tout prix, on peut tomber dans un style d'éducation ultra permissif où non, je veux le laisser prendre ses choix, etc. Mais si on va à la racine, c'est pas parce qu'on veut que l'enfant soit libre, c'est parce qu'on ne veut pas contrarier notre enfant, peut-être parce que nous-mêmes on avait vécu dans un milieu très légaliste. Bonjour à toutes. Alors, bienvenue dans À table avec Annabelle. On parle de l'éducation des enfants. Alors, aujourd'hui, on va voir comment on peut avoir une discussion sur la différence entre protéger, surprotéger ses enfants, mais les équiper. Et franchement, c'est à vivre. C'est quelque chose qui est pas forcément évident. Ça demande de naviguer parce qu'en plus, les enfants grandissent, les enfants évoluent. Le monde change aussi autour de nous. Les amis changent, les habitudes changent. Et nous, en tant que parents, c'est comme un réapprentissage de tous les jours. Et je sais quelquefois, quand on est maman, on peut se sentir assez seul, isolé dans nos défis, se demander est-ce que moi je fais bien les choses, est-ce que j'ai tout raté, est-ce que mes enfants vont échouer dans la vie parce que j'ai pas su les équiper. Et puis quelquefois aussi, en tant que parent chrétien, on peut être dans une surprotection, complètement isolé nos enfants. Alors il y a tout un débat par rapport à ça. Est-ce qu'il faudrait que nos enfants soient dans un monde 100% chrétien où il y a rien d'autres, etc. Ou alors, est-ce qu'il faut les préparer au monde et puis du coup les jeter dans le monde? Mais écoutez, je pense qu'il y a un équilibre à avoir, une sagesse à avoir. Et on va en parler aujourd'hui avec Laure et avec Aurélie. Coucou les filles.
Salut Annabelle.
Ça va bien?
Hello,
ça va bien?
Oui, ça va.
Ouais. Alors Aurélie, moi je trouvais ça hyper intéressant d'avoir ton regard par rapport à ça, parce que tu es entourée de beaucoup d'enfants mais aussi de beaucoup de jeunes et de jeunes adultes, donc qui ont pu évoluer de façon différente dans leur plus jeune âge, dans des familles chrétiennes, des familles pas chrétiennes, puis de voir un peu comment ça a été quoi le résultat en fait. C'est parce que c'est le vrai résultat, tu le vois quand ils sont un peu plus grands et puis quand ils arrivent dans cet âge-là, et puis c'est à ce moment-là que notre maman Aurélie les récupère et puis nous dit vous avez fait du bon travail ou pas. Et toi alors, t'as deux, donc tu nous l'as dit, hein, t'as deux enfants qui ont 10 et 7. 10 et 7, donc là t'es vraiment toi dans le...
Dans le vif du sujet, ouais, on verra dans quelques années si qu'est-ce que tu vas me dire.
Ouais, bah là on va voir...
Merci, t'as bien fait les choses.
C'est ça.
Mais on va voir, il y a différents types de parents, de parentalité. Franchement,
j'ai vu les noms, ça m'a trop fait rire.
Bah, je vais vous les dire pour commencer direct, parce que c'est vrai que il y en avait que je connaissais, mais alors il y en avait, franchement, j'ai découvert. Alors, est-ce que vous aviez déjà entendu parler du parent curling?
Jamais.
Non. Curling, non, ça vous dit rien. Le parent curling, c'est le parent qui déblaie tout avant le passage de l'enfant pour pouvoir lui faciliter la tâche. Mmh. Alors ça a du sens quand tu connais le curling, parce que le curling c'est un sport où ça consiste à frotter la glace, à balayer la glace avant que un gros truc y aille.
Je comprends mieux.
Tu comprends mieux le curling ou le type de
parent?
Les deux.
Les deux.
Parce que le curling en soi est un mystère aussi. Je m'excuse pour vous qui êtes adeptes du curling, mais franchement, c'est un grand mystère pour moi, ce sport. Il y a le parent tigre. Le parent tigre. Non, mais moi, j'avais jamais entendu parler de tout ça. Le parent tigre, c'est le parent qui est plus dans la performance et qui va mettre ses enfants dans les cours, dans des, toutes sortes de choses, des cours de langue, des machins pour l'amener à se développer et à développer un méga gros potentiel.
Le rapport, c'est... Le rapport, c'est...
Bah,
c'est
tigre.
Juste, c'est beau.
Ouais, je vois. Le parent méduse, ça c'était le parent permissif. Ouais. Le parent hélicoptère et le parent drone. Bon, il y a une petite nuance entre les deux. C'est le parent qui plane au-dessus de ses enfants, qui est tout le temps là en mode surveillance. Et il y a le parent parachute aussi. Okay. Donc le parent parachute, Ça avait l'air d'être un modèle plutôt positif. Mais en gros, tu jettes ton enfant. Mais en l'ayant équipé d'un parachute, tu le laisses.
Il s'ouvre ou s'ouvre pas, on sait pas.
C'est le risque, c'est le risque. Bon, je veux dire, c'est, et, ah, il y a le parent dauphin aussi. Donc le parent dauphin, je pense que c'est à cause des sauts. Et c'est un mélange, en fait, entre le parent permissif et le parent autoritaire. Et qui, à la fois, peut être ferme, mais aussi permissif. Et ça a l'air d'être un mélange relativement du coup équilibré entre la communication, mais entre aussi l'autorité et tout ça. Donc on voit qu'il y a pas mal de choses et puis il y en a sûrement d'autres. Et puis j'imagine
c'est sûr
qu'on peut
que la liste n'est pas exhaustive.
Je pense
exhaustive.
Qu'on peut, c'est ça, tu peux inventer ton type.
Bah oui, il y a des parents.
Poules.
Les mamans poules, oui.
Bah, il y a des papas poules aussi.
Des papas poules, ouais.
Exact. Mm-hmm. Et moi, Jérémy, quelle fois, il me regarde et juste, il me fait ça, je parle et il est là, en train de me regarder de loin. Je dis, ok, c'est bon. Il trouve que je suis un peu trop maman poule. Bon, moi, je trouve pas, mais tout ça pour dire, c'est ça, on peut inventer notre type de parentalité, on peut trouver plein de choses. À la fois, ça donne de la connaissance, mais en même temps, ça embrouille. Moi, je me souviens quand j'ai eu Eden, maintenant, il y a plus, un peu plus longtemps que toi, il y avait beaucoup moins de choses sur la parentalité. Donc, du coup, à la fois, t'avais moins de réponses, mais en même temps, tu te posais moins de questions, j'ai l'impression.
C'est vrai.
Donc, c'est, tout ça, c'est aussi c'est cet équilibre.
Parfois, on est surinformé et puis on peut s'embrouiller, comme tu dis, avec trop d'informations. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut se dire que déjà, nos enfants sont uniques et qu'on aura une parentalité unique, en fait. Mm-hmm. Et je pense que si on accepte ça, on sera aussi à l'aise avec ce qu'on veut donner à nos enfants. Mm-hmm. Mais si on ne l'accepte pas, on va facilement regarder chez le voisin et se dire que, mais j'ai l'impression que avec Laure, ça va bien. Peut-être juste parce que les enfants de Laure ont peut-être un tempérament peut-être plus doux, plus calme. Tu peux vite te dire, mais chez elle, ça a l'air d'aller et chez moi, c'est la pagaille. Pourtant, en réalité, c'est pas une histoire de comparaison. C'est juste que chaque parent doit se dire, ma famille, elle est unique. Mm-hmm. Mes enfants sont uniques, donc ma parentalité également sera unique. Et dans ma maison, peut-être ça ne ressemblera pas à la maison du voisin, mais on va mettre les choses en place pour que, en fonction de la personnalité de l'enfant, en fonction de notre vie de famille, en fonction de nos valeurs aussi, que les choses soient faites d'une certaine manière. Donc si on accepte déjà l'unicité de la parentalité, mais moi je pense que ça peut déjà débloquer beaucoup de situations.
Et puis nous enlever un certain poids et pression, parce qu'il n'y a pas un modèle unique, parfait, et en dehors de ce modèle, en fait t'es dans un échec. Est-ce que toi tu te reconnaissais dans un de ces modèles ?
En vrai, dit comme ça, là pas trop. Non mais ça serait à regarder, c'est sûr il y a peut-être des petites choses ici et là, mais j'aime ce que tu dis, c'est vrai que les enfants sont uniques, et aussi en tant que parents, on a été choisis pour ces enfants à la fin. Dieu nous a tout donné pour les enfants qu'on a, et quand on réalise ça, ça enlève aussi une pression, parce que de te dire, au fin fond, oui, il y a différentes sortes de choses, mais après, on est en apprentissage aussi, et ça, c'est la bonne nouvelle quand on est chrétien et quand on a le Saint-Esprit, c'est qu'on peut avoir des informations de partout, effectivement, on pourrait arriver dans la comparaison ou dans le je ne sais quoi, je réalise, mes enfants sont uniques, moi, je suis les bons parents pour mes enfants, et j'ai le Saint-Esprit avec moi, donc le Saint-Esprit va pouvoir m'aider dans les situations pour l'éducation de mes enfants, et ça, c'est super rassurant, je trouve, je trouve ça vraiment rassurant.
Et même de se dire que, en fait, nos enfants appartiennent premièrement à Dieu avant même de nous appartenir. Oui, on est un peu les gestionnaires par rapport à ce don que Dieu a fait. Et parce qu'ils appartiennent à Dieu, déjà réaliser qu'il y a un avenir, il y a une espérance pour eux. Je le dis parce que l'on parle de surprotéger aujourd'hui. Et quelquefois, on peut penser que parce que c'est nos enfants, on doit aussi aller dans les excès, tu vois, au niveau de la protection. Bien sûr, il faut protéger son enfant, c'est le rôle du parent. Comme la Bible dit, les enfants sont comme une flèche dans la main d'un archer. Le but de l'archer, c'est de lancer la flèche dans la bonne direction pour qu'elle atteigne une certaine cible.
Les parents archers.
Donc c'est ça, exactement. c'est vraiment ça que la parole de Dieu dit. Donc ça veut dire que le parent est là vraiment pour équiper l'enfant de sorte qu'il aille dans la bonne direction. Et ça, c'est le plus important. Et comme l'on dit, le Saint-Esprit va t'aider. Mais réalise d'abord que cet enfant, en fait, il appartient déjà à Dieu si tu appartiens à Dieu, ben lui aussi c'est un enfant de Dieu, il va faire ses choix, etc. Mais Dieu le protège. Réaliser que son premier protecteur, avant d'être toi, c'est Dieu, ça, ça peut aussi aider sur beaucoup de plans. Parce que parfois, on parle de surprotection, il y a des parents qui ne vont pas accepter que leur enfant fasse certaines choses. Parce qu'on met des limites, on met trop de limites parfois, et ça fait que l'enfant grandit, sans le savoir, il devient handicapé dans plusieurs domaines de sa vie. Il a été, il a eu tout ce dont il avait besoin. Il a eu tout, son chauffeur, son... Par exemple, comment en Afrique, par exemple, comment ça va se passer, c'est que parfois on a des chauffeurs à la maison, parfois on a un cuisinier, on a des personnes qui font du ménage, on a tout ça. C'est accessible pour beaucoup de personnes, pas tout le monde. Et puis après, ben, c'est tellement accessible qu'on est dans des maisons parfois où on grandit et t'as toujours été habitué à ce qu'on te conduise, à ce qu'on te fasse le ménage, à ce qu'on fasse tout. Parce que tes parents, en fait, voulaient te donner le meilleur. C'est pas qu'ils faisaient quelque chose de mal. Tu vois, d'ailleurs, un jour, j'ai entendu Michelle Obama dire qu'elle suppliait les gens qui faisaient le ménage à la Maison-Blanche de ne pas faire le ménage dans la chambre de leur fille. Parce qu'elle voulait, elle savait que la Maison-Blanche, c'est peut-être pour 8 ans, mais après les 8 ans, tu vas vivre ta vie. Comme, et il faut que quand tu sois dans ta vie à toi, il y a des choses que tu dois savoir faire. Tu vois, et parfois, on est parents, on se dit, je donne le meilleur à mon enfant, et on oublie qu'il y a un futur où, quand l'enfant va grandir, peut-être tu ne seras plus là. L'enfant doit prendre des responsabilités par lui-même. Et je crois que c'est important de voir plus loin que juste aujourd'hui aussi, quand on est parent. Ça aide à vraiment bien décider et à replacer les choses dans un certain contexte.
Et tu vois, il faut dire aussi qu'on est dans un... tu sais, il y a tout ce côté un peu pratique de la vie où tu peux surprotéger tes enfants, puis finalement, ils arrivent et ils ne savent rien faire. Ils savent pas cuisiner, ils savent se débrouiller par eux-mêmes. T'sais, ils sont un peu assistés, quoi, au final. Où est le chauffeur? Tu vois, là, le... Tu vois le bus qui passe? C'est ton chauffeur. Bonjour, mon beau monsieur, amenez-moi. Mais... il y a aussi au niveau de notre foi chrétienne. Et c'est là où je trouve qu'il y a... C'est des questions légitimes en tant que parent aujourd'hui. Le monde est tellement hostile à la foi chrétienne que tu te dis, mais mes enfants vont être exposés à tout un tas de choses. Et peut-être qu'il y avait un certain temps où les enfants y étaient exposés à 15 ans. Donc tu te dis, bah, ils ont quand même une certaine compréhension, on peut leur dire certaines choses. Mais aujourd'hui, il y a des choses auxquelles les enfants vont être exposés dès 3 ans. Et tu te dis, mais comment est-ce que je peux expliquer ces choses-là à mes enfants? Comment est-ce que je peux leur... Pourquoi est-ce que je dois leur parler aujourd'hui de ces sujets-là? Parce qu'à l'école, ils sont exposés, parce que sinon, il y a des copains, des copines, ou dans la maison de quelqu'un d'autre, etc. Et du coup, c'est vrai que... Bah, moi, je parle pour moi, mais en tant que parent chrétien, bah, à un moment donné, j'ai l'impression qu'on a tous cette envie de dire, je garde mes enfants, je garde mes enfants, ce monde est méchant, ce monde est fou, et puis et je peux pas les envoyer. Et mais ceci dit, comme tu le disais, Aurélie, faut penser à plus loin. Nos enfants, on va pas les garder jusqu'à ce qu'ils aient 40 ans avec nous. Donc c'est de trouver cet équilibre entre comment leur expliquer, comment les préparer, et puis peut-être plus jeune que c'était il y a quelque temps, mais faire le deuil de oui, avant c'était comme ça, parce qu'aujourd'hui c'est plus comme ça. Toi, tes enfants, ils vont à l'école et bah ils sont exposés à un tout un tas de choses, et j'imagine que quelquefois tu dois te dire, ce serait tellement plus facile la vie si si tu vois ils étaient pas dans le monde.
Mais c'est drôle que tu parles de ça, et même au niveau de ce sujet-là, parce que figure-toi que c'est vrai que même nous avec Samuel, mine de rien, c'est une prière qu'on fait en ce moment, c'est l'école à la maison, les laisser à l'école et tout ça, parce que avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, ça te fait quand même poser des questions. Si t'es quand même responsable de tes parents, mais juste ouais, de tes enfants, de tes parents aussi. mais la priorité, ce que j'aimerais dire avant d'équiper, je pense, c'est ce qui est important, et tu le parlais en réalisant que nos enfants sont les enfants de Dieu, c'est de prier pour eux. Et je pense que déjà, c'est le premier investissement qu'on peut faire au niveau de même de les équiper quelque part, parce que cet investissement-là est une façon de les équiper. développer. Et il y a des prières qu'il faut pas, tu sais, il faut pas lâcher, quoi. Dès leur plus jeune âge, tu sais, mm-hmm. bah, qu'ils puissent être protégés par Dieu, tu sais, qu'ils aient une sagesse, qu'ils soient un discernement, une pureté. Il y a plein de termes, de mots qu'on peut dire et ne pas hésiter à prier tous les jours parce que ça va porter son fruit. Ouais. Et je pense que la prière est vraiment la fondation de la façon dont on va les équiper, en fait. Et ça part de la prière. Mm-hmm. Et ensuite, vis-à-vis de l'école, parce que tu me parlais de ça, c'est vrai que nous, donc, on était dans ce questionnement-là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que voilà, c'est vrai, comme tu l'as dit, aujourd'hui, ça parle de tout et n'importe quoi à l'école, déjà avec les camarades, ils sont enseignés certaines choses, tu te dis, mais est-ce qu'ils vont apprendre des choses que moi, va falloir que je déconstruise à la maison? Donc, limite, tu te dis, mais est-ce que je perds mon temps? Maintenant, il y a les téléphones portables, donc nous, ils sont à l'école primaire, certes, mais tu vois que déjà dans 5e, 6e année, dans les dernières classes, vers 10 ans, il y en a qui ont déjà des téléphones, ils ont des temps où ils peuvent les utiliser, donc même si ton téléphone...
À l'école.
Ah. Oui, ma nièce me disait qu'ils avaient un temps où vous pouvez aller sur vos téléphones pendant ce petit temps-là.
Ah,
ouais. Donc même si toi, tu peux veiller par rapport à tes enfants, tu sais pas ce qu'ils vont pouvoir voir au travers des téléphones des autres ou autres. Et voilà, moi, je vois mon fils, il a juste 7 ans, mais quand t'entends des fois les discussions des petits, tu te dis, mais c'est pas possible, tu vois. Donc ça t'amène quand même à réfléchir, tu vois, à réfléchir. Et en même temps, de l'autre côté, t'as pas envie de vivre dans la crainte.
C'est ça.
Parce que ça, c'est ça le danger.
Oui.
C'est vrai que je trouve que de nos jours, on est dans la crainte, on a peur de tout, en fait, en tant que parent. On devient un peu presque pas fou, tu sais, mais.
Parano.
Ouais, tu sais, au moindre truc, tu vas dire, ah non, mais attention, puis t'as peur que, tu sais, ivri, ton enfant, de ça, qu'il soit. Donc, c'est sûr qu'on doit être responsable et veiller, mais faut pas non plus être dans la crainte. Mm-hmm. Et je me dis, comme Dieu, moi, a veillé sur moi et a veillé sur beaucoup, sur tout le monde, il veille sur le monde, il n'y a pas de raison qu'il veille pas sur mes enfants. Et certes, les générations changent, certes, tu sais, ça va pas en s'améliorant, mais Dieu reste le même. Et je me dis que on peut prier, Dieu peut préserver le regard, faire en sorte que tes enfants tombent pas sur cette vidéo, tu sais, que n'entendent pas certaines choses, coupe des fréquentations, coupe des et moi je veux croire ça du Seigneur, tu vois. Donc dans la façon, j'ai bien fini, dans la façon dont on...
Non, mais vas-y, prends ton temps.
Dans la façon dont on prie, par exemple par rapport à l'école, il faut juste se dire, j'ai pas envie de marcher, je veux pas avancer par la crainte, je veux faire ce que toi, Dieu, tu veux que je fasse. Et si tu me dis de faire l'école à la maison, c'est que ça sera la bonne chose pour mes enfants. Et si tu me dis par exemple, moi, j'ai une autre mission pour toi, ça veut dire que si j'envoie mes enfants à l'école, tu vas les protéger, tu vas veiller sur eux et je peux vraiment les remettre entre tes mains.
Ouais. C'est une approche de foi que je trouve ça vraiment super. Quand tu parlais de prier pour les enfants, je pensais à Nadine. Elle a raconté une histoire comme un jour, elle priait pour ses enfants, elle faisait l'onction d'huile et tout. Puis elle arrive dans la chambre de son fils, elle fait, et puis son fils s'est réveillé. Elle avait l'air un peu bête, quoi. C'est comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, et là, ça semble drôle comme ça, mais c'est quand même la responsabilité des parents que de prier pour leurs enfants. Tu es mieux placé, en fait, que tout le monde. Il y a une autorité que Dieu t'a donnée dans la vie de cet enfant-là, même pour déclarer des choses sur la vie de l'enfant. Et j'aime trop ce que tu viens de dire, Laure, parce qu'en fait, en tant que parent, on peut le déclarer. Tu vois, on peut déclarer vraiment que mon enfant ne sera pas soumis à certaines choses. Même si mon enfant entend parler de cette chose-là, ça n'aura aucun impact sur son cœur, aucun impact dans sa vie. Et ça aussi, c'est le rôle du parent. C'est un rôle quelque part qui est comme aussi préventif, tu vois, mais c'est important de le faire. Trop souvent, dans certaines sociétés, les enfants sont livrés un peu à la société, tu vois. Et tu disais que les temps ont changé. Il y a le livre « Tout se joue avant 6 ans », là. Je ne sais pas s'il devait écrire ça aujourd'hui. Je ne sais pas si l'âge serait resté 6 ans, je ne sais pas. Parce que comme tu dis, il y a tellement de choses accessibles à des âges tellement jeunes que tu te dis « wow ». On n'aurait pas imaginé ça il y a quelques années, mais en tant que parents, c'est à nous vraiment de se dire, mon système de protection ne peut pas se baser que sur moi. C'est pas juste moi qui doit être le centre de tout. Dieu, il est là, mais maintenant, je vais coopérer avec lui pour que mon enfant soit équipé. Et c'est comme ça qu'on saura même de quel sujet parler à nos enfants et à quel moment. C'est comme ça qu'on saura prendre les enfants d'une certaine manière, vous voyez. Et ça, je pense que c'est important.
Et se poser la question, qu'est-ce que je veux pour mon enfant? C'est quoi la vision pour mon enfant? Est-ce que je veux qu'il aime Dieu ou est-ce que je veux qu'il m'aime moi? Et je pense que ça va influencer dans notre façon d'interagir avec notre enfant, parce que si on se dit en tant que parent, moi j'ai envie que mon enfant m'aime, dans le sens je veux maintenir cette relation avec lui à tout prix, on peut tomber dans un style d'éducation ultra permissif où non, t'es, je veux le laisser prendre ses choix, etc. Mais si on va à la racine, c'est pas parce qu'on veut que l'enfant soit libre, c'est parce qu'on ne veut pas contrarier notre enfant, peut-être parce que nous-mêmes, on a vécu dans un milieu très légaliste, très dur, où tu sais, on a manqué d'affection, il n'y avait pas de communication. Et du coup, bah, je veux tellement pas perdre ça avec mon enfant que je suis prête à le laisser faire toutes ses expériences et puis à dire oui, bah, moi, je suis dans la foi, etc. Mais au final, c'est parce que j'ai peur de perdre l'approbation de mon enfant, j'ai peur de perdre ce lien avec lui, et dès que la peur est le moteur, ben en fait il y a quelque chose qui va déséquilibrer. On va prendre des décisions par défaut. Ben, j'ai peur qu'il me rejette, j'ai peur qu'il pense que je suis pas une bonne maman, que c'est que je le comprends pas. Moi j'ai vécu du rejet dans ma famille, alors du coup on risque de prendre des décisions en réaction et puis d'être trop permissif avec un enfant. Et après quand on a l'idée du disciple, bah, je crois que ce serait la meilleure des perspectives, mais c'est la plus difficile, je trouve. C'est de comprendre que toi-même, tu dois être un modèle de foi, un modèle de disciple. Et la foi, c'est de laisser Dieu agir. Et ça veut dire que bah, Dieu est Dieu, et c'est Dieu qui le fait. Et de comprendre que bah, moi-même, je suis qu'un instrument dans le parcours de mon enfant, et que c'est pas moi, le Saint-Esprit, c'est pas moi qui va contraindre mon enfant à aimer Dieu, et que le fait d'être un disciple, c'est un choix. Et que du coup, bah, mon but, mon aspiration dans la vie, c'est qu'un jour, mon enfant prenne la décision de devenir pour lui-même un disciple de Jésus-Christ. Et pour qu'il prenne cette décision-là, bah, probablement qu'il va se poser des questions. Ça ne veut pas dire qu'il va partir dans tous les sens, etc. Mais il va se questionner à un moment donné. Il va vouloir peut-être avoir des réponses ailleurs. Et ça va être des moments où, en tant que parent, on peut se sentir insécurisé. On peut se dire, mais est-ce que je suis en train de le perdre? Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est là où nous-mêmes, bah, on doit être un disciple de Jésus-Christ et dire, bah, c'est la foi. C'est la foi qui va faire toute la différence. Ma foi en Dieu. Et puis sa foi que mon enfant va développer une fois. Ou alors on peut aussi avoir la vision d'un enfant qui va être chrétien. Un enfant qui va être chrétien, c'est un enfant que du coup on va avoir tendance à éduquer dans la loi, dans tu fais, tu fais pas. C'est ça un chrétien. Il développe une vie chrétienne. Il est dans un monde chrétien. Il prend des décisions chrétiennes. Et tu vois, un petit peu comme une fois, tu avais fait un message, Aurélie, sur la connaissance du bien et du mal. Et que, mais en fait, c'était pas suffisant. Tu vois, la connaissance du bien et du mal, tu vis selon un code. Bon, tu le rediras toi-même de comme tu l'as dit, parce que c'était vraiment fort. Tu vis un peu comme selon un code de valeur morale, mais c'est pas motivé par la foi, par l'amour pour Dieu. C'est des valeurs. Tu sais la différence entre le bien et le mal. Puis bah du coup, t'éduques tes enfants selon ça, le bien et le mal. Tu fais pas. Et puis bah selon le cœur de l'enfant, il y a des enfants, ils vont complètement se soumettre à ce style de vie, mais il y aura pas cet amour pour Dieu, cette crainte de Dieu qui vient d'eux. Puis bah, du coup, ça veut dire que peut-être c'est des enfants, et même en grandissant, ils vont se marier, etc. Pas de vague, mais à 30 ans, 40 ans, t'as quelque chose dans ta vie qui arrive, tu fais une crise d'identité, tu vis une situation, et en fait, t'as pas de racine, parce que tout est basé sur cette connaissance du bien et du mal et sur la loi. Ou bah t'as des enfants qui vont vouloir enfreindre les règles, et du coup bah ils vont prendre un chemin, ils vont fuir la loi, ils vont fuir les règles, et puis c'est des enfants qui nous échappent, et ils ont besoin de vivre autre chose parce que on les a enfermés, et du coup bah ils fuient la loi. Donc il y en a qui se soumettent à la loi, il y en a qui vont fuir la loi, mais dans ces cas-là on est, je pense, faut être honnête, en train d'essayer de construire des enfants dans une vie chrétienne, des chrétiens. Mais si on a cet objectif de disciple de Jésus, bah, ça va pouvoir nous faire passer à travers des moments de doute, à travers des moments de vide un petit peu aussi, mais d'avoir cette perspective à long terme.
J'aime beaucoup ce que tu dis quand tu dis qu'on doit être des exemples nous-mêmes pour nos enfants, parce que les enfants reproduisent des schémas qu'ils ont vus, et peut-être ils sont trop petits aujourd'hui pour le reproduire, mais eux-mêmes, demain, ils vont se marier, ils auront une vie, et ils risquent de reproduire certaines choses. C'est pour ça que oui, il faut absolument qu'on soit ces personnes-là qui sont les premiers exemples et les premiers modèles. Et pour ça, ça implique de ne pas juste vivre centré sur soi-même, mais vraiment de réaliser que ton enfant va répéter certaines choses que tu vas faire. Et parce que tu sais que ton enfant va le faire, ben, t'as intérêt à prendre des bons plis, en fait. Mm-hmm. T'as intérêt à manifester cette vie de disciple dont tu es en train de parler. Et c'est sûr que si on est juste dans la contrainte et que on n'écoute jamais un enfant, on lui dit juste c'est ce que tu dois faire, etc. Ça aussi, c'est quelque chose qui vraiment, c'est handicapant.
Absolument.
C'est handicapant parce que moi, je sais que dans plusieurs contextes, il y a des personnes qui, beaucoup d'enfants, j'ai même envie de dire une génération, a grandi vraiment avec ne fais pas ci, ne fais pas ça. On ne leur a jamais donné les explications du pourquoi. On avait juste dit ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et on te corrige si tu fais quelque chose de pas bon et on te récompense si tu fais quelque chose de bon. Du coup, beaucoup ont grandi dans ce système-là. Et ils sont incapables d'expliquer à leurs propres enfants pourquoi on fait des choses.
C'est comme ça.
Ben voilà, c'est comme ça. Tu vois, et c'est important si peut-être il y a des parents qui nous écoutent aujourd'hui qui ont grandi comme ça, de réaliser en fait que c'est pas juste comme ça.
Tu reprends tout à zéro. Alors qu'est-ce que je t'ai dit? Tu reviens.
C'est pas juste comme ça. Il y a des raisons derrière chaque chose. Maintenant, pour ce qui nous concerne, comme tu disais, Annabelle, notre raison à nous, c'est pas juste c'est bien, c'est mal. Notre raison à nous est basée sur le fait que ben, Jésus-Christ est notre Seigneur et il est notre Sauveur et qu'il a des réponses pour chaque chose par lesquelles on passe et par lesquelles on peut, des choses qu'on peut traverser. Donc, c'est ça notre base. Et même quand tu vas faire ça, moi, je crois, je me rappelle, je vais faire une parenthèse, quand j'étais en Belgique, à un moment, j'ai habité avec une dame et ses enfants. Et tout ce que son enfant lui demandait, elle était toujours en train de pouvoir donner. Mais c'était un petit enfant, il était trop mignon d'ailleurs. Et un jour, je lui ai dit, mais là, tu m'as dit que tu voulais les enseigner la foi. Pourquoi tu ne lui demandes pas un peu de demander à Dieu quand il te demande un truc, juste pour voir comment lui, il va réagir. Et elle était comme, ah bon, on peut faire ça? Tu vois, elle était étonnée. Parce que si on ne t'a jamais appris ce genre de choses, mais naturellement, elle répétait certainement le schéma de ses parents qui comblait à tous leurs besoins. Mais il faut savoir, comme t'as dit Annabelle, qu'est-ce que je veux? Je veux que mon enfant soit un disciple. OK, qu'est-ce qu'on fait? Et il ne faut pas penser que ça va commencer quand il va apprendre à parler, quand il va marcher, quand il va entrer à l'école. Ça commence quand tu l'accouches.
Même dans le ventre.
Ouais, voilà. Ouais. Ça commence quand il est conçu. Voilà. Ça commence parce que quand les gens à la crèche, tu sais pas ce qu'on dit là-bas. Tu connais pas les parents qui viennent déposer leurs enfants, les semences qui sont semées là-bas. Tu connais pas, en fait. Et c'est tellement tôt, comme on disait tout à l'heure, que toi, tu peux pas te permettre d'attendre. Tu vois, il faut se dire, mon enfant, c'est pas juste le bien, le mal, tout ça. C'est vraiment Jésus que je dois montrer à mon enfant. Et comment Jésus se comporterait s'il y a un conflit? Comment Jésus ferait s'il y a des situations difficiles? Comment ça se passerait? Et c'est comme ça qu'avec le niveau de l'enfant, on peut commencer à introduire certaines choses, mais pour qu'il voit qu'il y a plus grand que lui. Un jour, on a reçu Chris Talingano à Bonjour chez vous. Et moi, ça me faisait drôle parce qu'il disait que nous, on a grandi avec Jésus. Tu vois, c'était comme si vraiment Jésus était partie entière de leur famille. Nous, on a grandi avec Jésus, on savait qu'on pouvait lui parler, lui demander des choses. Il était là, tu vois, mais c'est une éducation que ses parents ont donnée et je pense que ça vaut la peine de reproduire ce type-là.
C'est sûr.
Ouais, et tu vois, donc tu parlais au début de le fait d'être un exemple en tant que parent. Et c'est vrai que, comme on le dit, ben, les enfants vont plus copier ce que tu fais que ce que tu dis. Donc effectivement, ça c'est une prise de conscience qu'il faut prendre. Et ce qui va aider aussi, je pense, c'est vraiment la communication. Et donc de vraiment avoir une relation ouverte avec les enfants, où ils sentent qu'ils sont dans une famille, où, comme tu l'as aussi dit, c'est pas juste fais ci, fais pas ça, fais pas ci, mais il y a vraiment un dialogue qui se crée, il y a vraiment une liberté, il y a une transparence, il y a pas de sujet tabou, on peut parler de tout, au point que voilà, t'es même content d'aller parler avec tes parents, de leur de poser des questions, et c'est vrai que quand ils sont jeunes, moi mes enfants sont jeunes par exemple, et c'est pas, ils vont pas forcément toujours parler quoi, tu vois, donc il faut créer des fois ces moments de communication parce que voilà, ils sont toujours en train de jouer, ils font autre chose où ben voilà, ils ont pas forcément envie de parler. Donc moi je sais que par exemple quand je vais les chercher à l'école, déjà je commence avec c'est comme si ça ouvre des discussions. Mm-hmm. Alors c'était comment votre journée? Mm-hmm. Bien. Mm-hmm. Ah OK. Ouais, ouais. Donc, voilà, mais tu vois, on commence pour la suite de la soirée, je sais qu'on ouvre la discussion, je pose un petit peu des questions et après voilà, ça va être au temps du repas, on va manger en famille, puis là ben alors c'était comment? Puis là ça s'ouvre un peu plus et finalement ben tu réalises que ben c'est des moments super importants parce que il y a des choses qui sont dites qu'ils auraient peut-être pas pris le temps de nous dire d'eux-mêmes, mais parce qu'on leur pose des questions, on s'intéresse à eux et ils sentent vraiment que bah il y a pas de jugement, tu sais, on va pas te, peu importe quoi, on va pas te gronder parce que enfin pour des fois les enfants, c'est vrai que selon les sujets et tout, ils sont un peu gênés ou qu'est-ce qu'ils vont dire mes parents, mais on montre vraiment que ben vas-y, tu peux dire ce que tu as à dire, puis nous après c'est sûr qu'on va corriger si nécessaire et puis on va reprendre selon ce qu'a pu dire, mais que qui sentent vraiment voilà que qu'il y a une liberté en fait dans la communication. Et je pense que ça c'est important parce que du coup ben en fait quand ils vont grandir, ils vont toujours se rappeler de ça en fait, et on sera toujours en tant que parents, je pense, peut-être les premières personnes vers qui ils vont vouloir aller, parce qu'ils se sentiront pas jugés, ils sentiront que ben il y a pas de sujet tabou, mes parents sont ouverts et voilà, donc je pense que c'est important.
Et aussi je voulais parler des écoles chrétiennes, parce que ça je pense que c'est le rêve de beaucoup de parents.
Un truc, vas-y, juste pour manger avec vos enfants. Je pense que c'est trop important,
ça c'est sûr.
On est dans une société où c'est de plus en plus négligé à cause des activités, mais prenez le temps vraiment de s'asseoir en famille, manger, partager, échanger. Je pense que ça vaut la peine de le rappeler aujourd'hui.
Non, c'est très important. Donc oui, c'est ça, des écoles chrétiennes. Je pense que c'est un rêve pour beaucoup de parents de se dire, ah, si on avait une école chrétienne dans notre région, on amènerait nos enfants. Et sincèrement, bah, s'il y avait une école chrétienne quand Eden était plus jeune, moi j'aurais trop aimé l'amener dans une école chrétienne, qu'elle aille dans une école chrétienne. Et je crois que c'est super parce qu'au niveau de ce qui est véhiculé dans l'enseignement, bah, y a quand même des choses qui vont être différentes et qui vont faire la différence. Il y a des domaines où ils vont être plus protégés. Maintenant, je crois que aussi, faut pas idéaliser les écoles chrétiennes. Et quelquefois, bah, on va nous-mêmes, en tant que parents, vivre des déceptions parce qu'en fait, on met tellement d'attentes. Une école chrétienne, c'est pas une école magique, en fait.
Ça
reste,
tout, hein.
C'est ça, ça reste des humains, les profs restent des humains et les élèves aussi restent des humains. Et nous-mêmes, nos enfants sont complètement imparfaits. Ça peut être nos enfants qui vont avoir un mauvais comportement ou qui vont démarrer une mauvaise conversation, bref, et qui peuvent être des mauvais modèles pour les autres. Et quelquefois, je crois que quand t'as une école chrétienne, bah, c'est là où tu peux même un petit peu baisser ta garde et puis ne plus être dans cette foi active pour ton enfant. Tu sais, parce que là, tu les envoies dans une école séculière, donc là, tout en toi, tu les bénis, tu les ouinduis, tu déclares la parole, tu fais tout, tu leur imposes les mains tous les jours. Puis là, c'est une école chrétienne, puis c'est comme t'oublies tout. Alors qu'en fait, bah, ça reste le monde, hein, ça reste le monde extérieur, ça reste un endroit d'apprentissage où ils vont être confrontés à d'autres humains, ça reste un endroit qui est pas 100% sécuritaire parce qu'encore une fois, bah, c'est des humains, puis que, bah, je veux dire, le diable est réel et il s'arrête pas à la porte des écoles chrétiennes, malheureusement. Et je pense que c'est là où aussi on doit être, on doit pas être trop naïf et puis pas mettre tout le poids de l'éducation et de la réussite de la foi ou la protection de la foi de nos enfants. Ah oui, mais moi, mes enfants, ils ont vécu ça dans une école chrétienne. Bah oui, l'école chrétienne, elle était pas magique. On doit continuer notre travail, mais on doit aussi rester vigilant dans la foi et rester actif dans notre foi. Et c'est pareil pour l'école maison. L'école maison ne fait pas de nos enfants d'un seul coup des anges et des enfants qui sont épargnés de tout et de tout. Eden, elle a fait l'école maison à partir de 13 ans, je crois. Et elle l'a fait parce que c'était sa demande et parce que nous tous, quand je dis nous tous, nous trois, on a discerné que c'était la volonté de Dieu. Mais franchement, si ça avait, même pendant ces années, ça n'a pas été des années au niveau de l'école qui ont été faciles, parce que moi, j'étais pas une prof à la maison. Eden était une très mauvaise élève à la maison. Du coup, ça crée des tensions, etc. Et tu sais, le fait de dire, OK, bah, on croit qu'on a reçu une parole de Dieu, qu'on est en train de faire ce qu'il faut. Oui, dans un sens, ça les protégeait, mais en même temps, purée, il y a des journées, c'était compliqué. Tu te dis, mais c'est quoi ce plan? C'était un piège ou quoi, l'école maison? Mais pour pour dire que bah voilà, c'est pas non plus la solution miraculeuse. Et puis aujourd'hui, bah il y a beaucoup de parents. Puis moi, je comprends qu'ils soient intéressés vers l'école maison. Mais sachez aussi que l'école maison a vraiment, il y a vraiment un vrai lot de défis. Je vous le dis. Mm-hmm. Et moi, je remercie le Seigneur que on ait pu passer à travers. Mais ça n'a pas été rose tous les jours. Ça, il y a eu beaucoup de bons. Parce que, un, c'était la volonté de Dieu.
Ouais, c'est ça.
Et que du coup, bah, c'était la bonne chose. Et puis, ça nous a porté, ça nous a encouragé tout au long du chemin. Mais il y a eu des choses, je veux dire, que, par lesquelles on est passé. Et tu vois, je me serais dit, bah, on passera pas par là, puisqu'il a fait l'école maison. Et pourtant, on les a vécues. Et c'est ça, l'école maison ou les écoles chrétiennes sont pas non plus la formule magique.
Non, mais c'est ça. Ben là où tu penses finalement que tu les préserves quelque part, ben il y a comme ailleurs, tu vois, c'est quand même un sacrifice. Mine de rien, c'est un gros sacrifice. Il y a l'aspect social, il y a l'aspect relationnel. Mm-hmm. Donc il y a d'autres choses. Il faut vraiment que ce soit guidé effectivement et dirigé par Dieu, parce que sinon, ben on peut vraiment se mettre dans une situation très délicate. Mm-hmm. Et à la fin de la journée, après, t'es les écoles, maisons et chrétiennes, séculières. Je pense que c'est ça. Faut équiper nos enfants avant toute chose. Prier pour eux et les équiper.
Et puis leur faire regarder EMC TV.
Ah, ça devrait faire partie d'un programme scolaire. Regardez EMC. Moi, j'ai fait deux universités catholiques, mais il n'y avait rien de catholique.
Ouais, je sais, moi aussi.
Juste le nom, finalement.
Ouais, parfois, parfois, c'est ça. Et ben, on parle d'éduquer les enfants, mm-hmm. mais c'est bien de les exposer, mm-hmm. en fait. De les exposer à des contenus qui vont les édifier, qui vont les bénir. Regardez la télévision, il y a plusieurs... qui exposent leurs enfants à ça. Mais autant mieux que ce soit utile.
Oui, exact.
Tu vois, comme je vous ai souvent partagé, moi, la télévision a été quelque chose qui, dans mon adolescence, m'a quand même déviée des voies de Dieu. Et quand le Seigneur me disait que tu vas créer une chaîne de télé, c'était vraiment en disant que de la même manière que tu as été déviée par des médias, mais aujourd'hui, en fait, il faut créer des médias qui vont plutôt rapprocher les gens du Seigneur. Et c'était vraiment ça que j'avais ressenti. Et c'est aussi la responsabilité du parent que de dire « Je veux exposer mon enfant à des choses qui vont lui rapprocher du Seigneur, là où le monde l'expose toujours à des choses qui vont l'éloigner. » Et EMCI, c'est un très bon canal pour ça. Mm-hmm. Et avec ma Bible également, qu'on est en train de faire, le compte animé dont on a parlé, c'est des outils excellents qui vont vraiment faire en sorte que Jésus vienne s'installer comme ça dans le cœur de l'enfant directement, qui vont lui donner cette relation avec Jésus dont on a parlé. Mmh. Et en plus, à la fin, il y a des applications pratiques que l'enfant peut regarder et puis il répond à la question, etc. On est dans son univers et ça crée quelque chose de vivant, quelque chose de fort pour cet enfant-là. Donc, c'est vraiment une responsabilité parentale. Dans les commentaires qu'on a reçus, d'ailleurs, des personnes qui nous soutiennent dans cette nouvelle campagne de dons, dans laquelle on est en train de terminer, là, les 20 000, mais il y a des gens qui disaient que je sème pour mes enfants et pour mes futurs petits-enfants parce qu'ils ont vu l'impact de ce que ça peut être en fait dans la vie d'un enfant. Et aujourd'hui, oui, c'est notre dernière semaine de campagne, donc je peux pas passer à côté de l'opportunité de parler de ma Bible et de parler à toutes les personnes justement qui veulent voir des générations changer, des vies d'enfants être comme ça impactées par la parole de Dieu, de se dire mais moi aussi je veux faire partie de ça en fait. Éduquer des enfants, c'est aussi éduquer toute une génération. Ouais. C'est éduquer des personnes qui seront adultes demain et qui vont être dans la société peut-être des modèles, des personnes qui auront des décisions à prendre. Et plus tôt on commence, ben mieux c'est. Donc si peut-être qu'il y a des personnes, vous écoutez ce podcast et vous n'êtes pas encore partenaire de EMCI, sachez qu'on parle de la campagne des dons des 20 000 partenaires. Allez sur emcitv.com/20 000. On recherche... là, on est en fin de campagne. J'ai l'impression qu'on est au tout début. Je donne des informations de base. On recherche en fait 20 000 personnes qui pourront donner 35 € ou plus chaque mois pour soutenir cette œuvre avec les différents projets, dont le projet Ma Bible, qui est une révolution vraiment pour le corps de Christ. Et on croit qu'il va porter des fruits, non seulement pour les adultes, mais également pour les enfants, mais de manière exceptionnelle. Mm-hmm. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous écoutez cette émission aujourd'hui, vous n'êtes pas encore partenaire, ben allez-y et ensemble, on va former une génération d'enfants qui craignent le Seigneur et qui peuvent faire la différence.
Mm-hmm. Et c'est la dernière semaine. Donc, quelquefois, on attend le dernier moment pour se dire, moi, est-ce que je dois, est-ce que je participe? Mm-hmm. Ben, si c'était votre pensée, ben, c'est le moment, c'est le bon moment. Et je voulais lire un commentaire qu'on a reçu de Grâce du Congo qui remercie toute l'équipe de MCI TV et elle dit que sa vie est dans une ligne de transformation incroyable grâce aux émissions extraordinaires que vous faites et j'aime beaucoup ce qu'elle dit aussi dans son témoignage. J'aimerais encourager quelqu'un que gagnant des âmes pour ta part n'est pas forcément lorsque tu es devant un micro, mais tu peux aussi le faire dans le background en devenant partenaire de EMCI TV. Mm-hmm. Et j'ai essayé chaque jour qui se lève, je suis vraiment heureuse et de pouvoir participer. Et c'est vrai que c'est un moyen de pouvoir gagner des âmes, de gagner des âmes de 0 à 120 ans à travers les médias. Puis je crois que on aura tous notre récompense par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on dit la famille des partenaires, c'est une grande famille à 20 000. À 20 000, c'est une grande famille. Mais j'ai trouvé ça super beau, tu sais, de réaliser. Mais en fait, moi aussi, je suis en train de gagner des âmes. Moi aussi, je suis en train d'accomplir ce que EMCI accomplit parce que je suis partenaire. Je l'accomplis avec EMCI. Et c'est pas pour ça qu'on le fait, mais quand même, on aura une récompense pour ça. Donc, merci, Grâce du Congo, pour le commentaire. Puis merci beaucoup d'être venu partenaire avec nous. Alors, pour terminer cette émission. Peut-être pour faire un petit récapitulatif, c'est la foi qui sera la clé pour pouvoir éduquer nos enfants, la foi pour pouvoir discerner dans quelle saison nos enfants sont, dans quelle saison nous sommes aussi en tant que famille. Est-ce que c'est le temps pour moi peut-être de les retirer de l'école? Est-ce que c'est le temps pour moi de les laisser à l'école? Mais de tout faire motivé par la foi et pas par la peur, et d'avoir une vision à plus long terme que là mon enfant jusqu'à dimanche prochain ou jusqu'à son anniversaire, parce que il y a toute une vie en fait, et puis on veut amener nos enfants, enfin les aider en tout cas à devenir des disciples de Jésus-Christ, et ça tout se joue pas avant 6 ans pour devenir un disciple de Jésus-Christ. Il y a toute une vie que notre enfant a à vivre, et quelquefois on le dit, les journées sont longues, et c'est vrai qu'en tant que maman, quelquefois on voit un petit peu à court terme parce que il y a des choses qui peuvent être lourdes dans le quotidien, mais se rappeler, non, je veux voir à long terme et je veux que ma fille, que mon fils devienne un disciple de Jésus-Christ et que moi-même je sois un disciple dans ma maison, et de capitaliser vraiment sur les temps que nous on va passer avec nos enfants, de capitaliser sur le temps que nos enfants vont passer à la maison, que ce soit en les exposant à la parole de Dieu, en leur lisant la Bible, en passant des temps de prière avec eux, qui nous voient prier, qui nous voient demander des choses à Dieu, qui voient Dieu nous répondre en leur mettant, en les collant devant EMCI. T'es obligé de regarder EMCI. Il y a des enfants, ils regardent toutes sortes d'émissions, ils nous connaissent. Mm-hmm. Ils connaissent Bonjour chez vous, ils connaissent Atta, ils connaissent Jérémy. C'est trop drôle. Et c'est ça, de faire confiance à Dieu que peu importe là où on est, là où en sont nos enfants aujourd'hui, que aussi nos prières sont efficaces en tant que parents, en tant que maman particulièrement, pour pouvoir venir récupérer nos enfants là où ils sont sur le chemin aujourd'hui. Donc merci beaucoup les filles, merci les mamans dauphins, curling, etc. À bientôt, on se voit vendredi, bye bye.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.